Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
Sylvain Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la centrale de financement. Peut-être une petite présentation pour commencer avec quelques chiffres. 10 ans que vous existez, c'est ça?
Donc 10 ans créés en 2013, donc on rentre dans la 10e année. Aujourd'hui, on a décaissé, pour vous situer, 4,5 milliards. On est le 3e acteur de France et avec 180 agences et 900 collaborateurs.
Alors, on va parler de 2022. Quel bilan pour 2022?
Alors, un bilan en demi-teinte, finalement, une production identique à l'année d'avant. Donc, les médias ont parfois raison de dire que l'année était bonne et surtout le gouvernement. Mais en deux périodes, bien sûr, le premier semestre qui était encore dans une dynamique post-Covid est soutenu. Et un deuxième semestre avec l'envolée des taux et les problèmes de taux d'usure, beaucoup en demi-teinte.
Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du taux d'usure qui a bloqué pas mal de demandes de crédit. Concernant ce début d'année, donc au 1er janvier 2023, est-ce qu'on peut comparer à l'année dernière?
Alors, on n'aborde pas du tout janvier 2023 comme on avait abordé janvier 2022. Janvier 2022, on avait d'abord un stock de dossiers, le monde bancaire, financier, beaucoup plus important. On avait quasiment 6 mois tous de chiffre d'affaires d'avance. Donc on avait une vision assez sereine en se disant que globalement, le taux d'usure se calmerait, etc. Aujourd'hui, on aborde, nous, le monde bancaire aussi, janvier 2023, avec très peu de stock. On a 2 mois de chiffre d'affaires. Donc on a fait une bonne année 2022, mais parce qu'on a beaucoup déstocké, qui nous permet de compenser ce deuxième semestre qui était pas bon du tout en nouvelles affaires en 30. Et on aborde 2023 en se disant, bah oui, l'année peut-être a été bonne, on constate qu'il y a eu un peu moins de transactions, que le taux d'usure effectivement a sacrément joué son rôle puisqu'on a eu une augmentation de 30% des taux de refus. Mais la principale différence, c'est qu'on n'a plus de dossiers dans les tuyaux et il va bien falloir refabriquer un cycle. Et ce qu'on reproche un peu aux acteurs économiques, c'est que...
Donc au gouvernement.
Au gouvernement, voilà, c'est que ils ont laissé faire la fonte de ces stocks et que lorsqu'on casse une dynamique, c'est pas 3 mois, ça peut être beaucoup plus long, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, le temps de repartir. Que ce soit les constructeurs de maisons individuelles, que ce soit les promoteurs, ou tout simplement reprendre confiance dans le marché pour les primo-accédants. Donc on n'aborde pas du tout les choses de la même façon. Les taux d'intérêt également sont différents. Là, on avait en janvier 2022 une vision des taux de long terme en se disant est-ce que ça va toujours être à la hausse avec une posture de la BCE peut-être plus dynamique qu'aujourd'hui. La différence là, c'est qu'en janvier 2023, on a un OAT qui commence à baisser autour des 2,60. C'est un bon signe.
Ça baisse un petit peu rapport à décembre. Hein.
Bien sûr, ça continue de baisser, donc ça redonne probablement un peu de marge de manœuvre pour prêter et aller chercher des taux permettant de ne pas dépasser ce taux d'usure.
Et puis la bonne nouvelle, 3,57
sur 20 et 25 ans, et puis sur les taux fixes. Et puis vous avez aussi cette nouvelle approche du calcul du taux d'usure, où là, enfin, j'ai envie de dire, le gouvernement entend quand même un peu l'ensemble des agents économiques que sont les agents immobiliers, les promoteurs, les constructeurs. Je le disais tout à l'heure en plaisantant, mais même les déménageurs n'ont plus de travail. Et quand on voit tout ce que ça implique dans la chaîne de l'immobilier, c'est tout le secteur qui est impacté. Et le temps que qu'un ménage français prenne une décision d'acheter, on va avoir 3-4 mois de vide. Et en fait, c'est ce qu'on reproche, c'est ce stop and go. Le marché, l'économie n'aime pas le stop and go. Les problèmes que l'on a rencontrés depuis 2 ans sont liés, je le disais tout à l'heure, mais une baisse trop rapide des taux, et puis surtout une hausse trop rapide des taux. Et en fait, la hausse était telle qu'on a des mécanismes désuets de calcul avec ce taux d'usure qui ne reflètent plus du tout la réalité du marché. Comment vous voulez que je justifie un ménage français qui a une 50aine d'années, à qui on va dire on emprunte, j'ai 100 000 euros d'apport, j'ai 70-80 000 euros de revenus et j'emprunte 300 000, et on me dit non parce qu'il y a un chapeau qui m'interdit de prêter au-dessus qui est le taux d'usure. Donc on trouve que ce calcul est totalement désuet et qu'il faut réadapter. Le gouvernement, c'est un premier pas, a entendu le fait de dire déjà recalculons-le au moins le mois. La posture du gouverneur de la Banque de France avec Villeroy de Galhau a enfin un peu évolué et son dogme de dire je n'y déroge pas fait qu'il a entendu, donc très bien, ça veut dire que la Banque de France joue son rôle à se dire que peut-être qu'on est à prix d'équilibre et que le taux actuel que l'on a et permet d'avoir son équilibre entre l'offre et la demande, peut-être que c'est le début d'une bonne nouvelle.
C'est suffisant pour vous un calcul au mois du taux d'usure? Alors, je rappelle que c'était tous les trois mois jusqu'à maintenant.
Exactement. Alors c'est un bon début et parce que ça va être accompagné, on pense, d'une stabilisation des taux. À partir de là, on n'aura plus de problème de taux d'usure. Oui. Et dès l'instant qu'on n'a plus de taux d'usure, on ne peut pas dire aux agents économiques, on ne peut pas dire à l'ensemble de la filière qu'on ne prête pas parce qu'on a un problème de taux d'usure. On ne prête pas. Si on ne prête pas, c'est parce que le risque économique, le risque financier des ménages français n'est pas bon, etc. Mais comment voulez-vous dire à deux médecins, à deux infirmiers ou peu importe, qui se mettent en ménage et qui voudraient acheter, on leur dit non. Et on leur dit non parce qu'on a un calcul désuet du taux d'usure qui fait qu'on ne peut pas vous prêter. Mmh. Ça n'a aucun sens économique.
Alors les plus impactés, hein, on en a beaucoup parlé sur Radio Immo, ce sont évidemment les primo-accédants, les plus de 45 ans, puisque ça bloque avec l'assurance emprunteur, et puis les personnes qui ne répondent pas aux critères fixés par le HCFS, le Haut Conseil de Stabilité Financière.
Exact, donc les quatre catégories, les primo-accédants, moins d'apport, donc impactés vraiment par le HCSF, et comme les jeunes primo-accédants qui veulent acheter, qui se mettent dans la vie, qui sont peut-être deux ouvriers, qui n'ont peut-être que 3000 euros de revenus, avec un potentiel peut-être jugé insuffisant par certains opérateurs bancaires, fait qu'on va leur dire, on déroge pas nous au taux pour que vous puissiez avoir votre financement, donc on va vous prêter à 3, mais si on vous prête à 3 et qu'on rajoute tous les taux complémentaires, avec les taux d'assurance, la garantie, les frais de dossier, on prêtera pas. Par contre, le même jeune qui lui a plus de potentiel de revenus, jeune ingénieur ou jeune toubib ou autre, ou jeune chef d'entreprise, avec un potentiel, lui on va commencer à dire, on négocie le taux, de telle sorte à ce que le taux nominal soit plus bas, ce qui fait qu'avec l'incidence des frais, on passera et on pourra vous prêter.
Le but, c'est d'attirer de nouveaux clients, en fait.
De nouveaux clients, mais d'aller chercher, bien sûr, puisque les banques ont besoin de ces nouveaux clients, mais dans cette catégorie-là, on va quand même chercher des nouveaux primo-accédants, plutôt ceux qui sont à l'aise plutôt que ceux qui sont tendus. Donc on ne joue pas le rôle, bien sûr, mais on doit aussi jouer notre rôle. Et même un jeune ouvrier, un couple ouvrier à 3000 a tout à fait le droit de devenir propriétaire, on doit les aider. Ça, c'est la première catégorie qui a souffert. La deuxième, vous l'avez bien dit, c'est ceux qui ont 45 ans et un peu plus, qui avaient déjà une maison, qui aimeraient la vendre pour avoir un autre projet, et donc ainsi libérer du marché pour que des nouveaux primo-accédants puissent acheter cette maison qu'eux-mêmes avaient achetée il y a 10 ans. Bref, ne pas briser la chaîne, sauf que là, ceux-là, on les retrouve à nouveau contraints, pas par un problème de risque, mais là aussi parce qu'à 45 ans, on n'a pas le même taux d'assurance, et que si on prend un 3% au taux nominal aujourd'hui et qu'on ajoute des assurances à 0,50, vous voyez bien que le 3,57 est vite dépassé. Donc on leur dit non. Et puis après, vous avez ces jeunes retraités qui quittent Paris, quittent une grande ville pour retourner dans leur province natale, acheter une maison. Et ceux-là, on leur dit, vous avez beau avoir 100 000 euros de revenus ou de retraite, vous avez beau avoir 100 000 euros d'apport, on va vous dire non parce qu'on a un problème de taux d'usure. Économiquement, ça ne tient pas. Et puis, la dernière catégorie qui est encore plus exclue dans cette période-là, ce sont ceux qui ont eu des problèmes de santé, jeunes ou pas jeunes, et qui, déjà, ont un problème de santé et on a plutôt envie de les accompagner que faire l'inverse. Il y a eu la convention RAS qui avait été faite dans le sujet en assurance pour leur trouver une solution d'assurance, mais elle est plus chère, et comme elle est plus chère, on overshoot le taux d'usure et on dit non également.
Aujourd'hui, donc là, quand vous disiez tout à l'heure, en termes de stock, il n'y en a plus, on n'a plus de stock. Ça vient d'où ? Donc c'est à cause de cette impossibilité où les Français, eux, se sont dit, c'est pas le moment d'acheter, on n'a plus envie d'acheter. Comment ils sont ? Quels sont leur état d'esprit ?
Alors, période évidemment anxiogène, pour toutes les raisons l'on a dans tous les journaux, c'est même pas la peine de les rappeler. Et puis, il y a trois phénomènes qui s'entrechoquent. Donc, issue de cette ambiance un petit peu morose, plein de primo-accédants s'auto-sanctionnent eux-mêmes et se disent « bon, je ne dois pas avoir le droit d'accès au crédit ». Et ça devient une posture un peu générale de dire « on va attendre ». Mais quand on attend, on fabrique une crise. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que les ménages aussi aujourd'hui, de par toute la médiatisation qui était faite autour de l'énergie, se disent « je dois m'interroger ». Donc oui, je dois m'interroger, est-ce que finalement une maison à 40 ou 50 km, est-ce qu'une maison des années 60-70 non isolée fait que demain j'aurai un coût d'énergie bien supérieur et que je ne pourrai plus emprunter ? Et puis après, il y a aussi la loi qui commence à arriver sur les DPE, sur la performance énergétique des biens et tout ce qui est F ou G aujourd'hui. Et déclassé en valeur. On voit bien dans les annonces immobilières toutes ces ventes qui se font à moins cher à une décote. Donc est-ce que on finance oui ou non un bien qui aurait une mauvaise performance énergétique ? On a un devoir de responsabilité aussi parce que demain ce primo-accédant qui va acheter parce que moins cher un bien mais qui va lui coûter beaucoup plus cher en énergie
travaux,
et qui se revendra moins cher s'il fait pas les travaux, fait que demain on doit aussi être capable d'avoir cette observation pour lui dire oui ou non. Donc là, on a tous ces enjeux.
C'est pour ça que les banques donc, demandent le DPE, même pour les propriétaires occupants, parce que je rappelle que pour l'instant, les propriétaires qui sont impactés par le DPE sont uniquement les propriétaires bailleurs, pour l'instant, hein, parce qu'on pense que la loi va évoluer. Donc c'est pour ça que les banques donc, le réclament également pour tout achat.
Exactement, et c'est, je pense, un vrai devoir de responsabilité dans l'évolution du climat qu'on vit.
Alors, dans chaque crise naissent des nouveautés, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a? Et si oui, lesquelles?
Alors oui, il y a des nouveautés. La première, c'est que en observant tous ces jeunes ménages français qui ne peuvent pas emprunter sans fondement réel économique, on s'est dit qu'il faut trouver des solutions. Et la solution qui émerge, qui avait déjà existé dans le passé, portée un peu par les pouvoirs publics, c'est de dire comment on peut trouver des solutions de location-accession. Et là, on est déjà en expérience pour
donc
financer
quoi,
des clients. Donc c'est un jeune ménage qui voudrait acheter et qui ne peut pas acheter. Il ne peut pas acheter parce que soit le taux d'usure le bloque, mais ça on sait que c'est une mesure qui sera provisoire, soit il ne peut pas acheter parce qu'il n'est pas dans les normes des critères du HCSF. Il n'est pas, je vous rappelle que c'est 35% d'endettement assurance incluse maxi, etc. Et 25 ans maximum. Et pour une raison X ou Y, il a 36 endettements ou c'est un jeune entrepreneur, un jeune ingénieur qui a son compte, mais il n'a que 2 ans de bilan et pas 3 ans, etc. Bref, où il manque un peu d'apport, il n'a pas les 15 ou les 20% réclamés, puisqu'on est passé plutôt de 10% à 15% d'apport dans ce qu'on observe chez nous à la centrale de financement. Et donc, lui, on va lui dire, bah, écoute, si toi, jeune ménage français, tu as repéré un bien qui te convient, on va prendre un exemple à 300 000 et que tu ne peux pas l'acheter pour ces raisons-là, mais que tu penses que c'est une bonne affaire, et pour autant, tu as envie d'acheter. Et si tu as envie d'acheter, c'est uniquement pour une raison, c'est que tu penses que les prix vont continuer à augmenter et que c'est une bonne opportunité. On va t'aider à fixer, donc on va te trouver un marchand de biens, une société de marchand de biens, qui va acheter pour toi. Et avec un vrai contrat de location-accession qui fait que tu as 5 ans pour acheter ce bien dans lequel tu vas être locataire. Et le côté vertueux de la chose, c'est de dire je stabilise, donc j'achète le bien parce que je pense que c'est une bonne opportunité. Je ne serai donc plus locataire. Location-accession veut bien dire son nom. Donc pendant les 2, 3, 4 ans qui vont se passer, je vais rester locataire.
Donc le marchand de bien aura acheté le bien en question.
Bien sûr, il aura acheté le bien pour le compte de monsieur et madame X, et monsieur et madame X vont payer tous les mois une mensualité.
Au marchand de bien, du coup.
Au marchand de bien. Et dans cette mensualité, il y a d'une part le loyer de l'argent qu'ils vont payer, mais il y a au moins 25% qui vient en diminution de la dette.
D'accord.
Et ça permet déjà de constituer un apport. C'est ça, ce côté vertueux. Et le prix est fixé à l'avance également. Donc on sait à quel prix va être vendu ce bien. Donc ils savent qu'ils ne prennent pas de risque. Eux, ça les satisfait. À horizon 4 ans, ils pensent que là où ils achètent, dans une ville tendue, à des prix soutenus, bah, c'est plutôt une bonne opportunité. Ça les installe socialement. Et à horizon 4 ans, bah, leur dossier sera meilleur. Ils auront leurs 3 bilans. Ils auront plus d'apports. D'abord, contraints par le quart de remboursement qu'ils auront. Et ils vont le faire avancer.
Et donc ça, chose... c'est en test en ce moment.
Alors, tout à fait. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On est en phase test, mais... voilà, ça émerge et on voit que ça commence à bouger. Ce que l'on peut dire aussi par rapport à ça, c'est que, parce que la question à se poser, c'est si jamais, dans 4 ans, mon client, il n'est pas meilleur, il va se passer quoi? Le marchand de biens reprend le bien, le vend, et les autres retourneront locataires, les ménages français resteront, monsieur et madame Dupont retourneront louer un autre bien quelque part ailleurs. Donc voilà la solution. Mais ça permet, c'est la première fois qu'on commence à se dire, le monde bancaire ne peut pas forcément prêter et faire face à toutes les solutions. Comment on peut trouver des solutions pour émerger autour de ça?
Donc trouver des solutions.
Oui.
Un petit mot peut-être du coup sur le gouvernement. Tout à l'heure on l'évoquait, hein, qui a changé le mode de calcul du taux d'usure. Pour vous, est-ce que le gouvernement a joué son rôle de protecteur un peu trop tard par rapport aux Français?
Alors il a déjà joué. C'est déjà bien, mais oui, on pense que c'est au moins un trimestre trop tard ou deux trimestres et qu'on a brisé la chaîne, ce que je vous disais tout à l'heure.
Ouais.
Il y a plein d'agents économiques qui sont sortis du marché.
On aurait pu éviter la casse.
Et je pense qu'on aurait pu éviter la casse si on avait été entendu un peu plus tôt. Ce que nous avait confirmé Bercy lorsqu'on discutait avec eux dès septembre, dès juin. Il nous dit oui, on entend, on comprend ce que vous dites et oui, on va réagir. Et puis, la Banque de France, fort des chiffres constatés, mais parce que les chiffres que constate l'État sont des chiffres a posteriori. Ils regardent ce qui est signé, ils nous regardent ce qui rentre. Donc on sait ce qui va se passer dans 3 mois ou dans 6 mois.
Pour terminer, un petit mot sur les taux du coup aujourd'hui, quels sont-ils?
Alors tout dépend de ce que... Alors aujourd'hui on va sur 25 ans, on va prêter entre 2,80 et 3, avec 3,10, 3,20. À 3,20 on ne prête plus, parce qu'avec un taux d'usure à 3,57...
avec l'assurance.
Voilà, avec l'assurance on ne passe pas, mais à 2,80 lorsqu'on a des bons dossiers, on arrive, même jusqu'à 3%, on arrive encore à financer sur des jeunes primo-accédants dès l'instant qu'ils ont un peu d'apport. Après c'est quelle va être la tendance de février? Eh bien on attend la position de la BCE. Quelle va être lorsqu'ils vont faire prochainement leur annonce? Est-ce qu'ils vont augmenter les taux? Est-ce qu'ils vont les tendre? Est-ce qu'ils vont les détendre? Est-ce qu'ils vont les maintenir? Quelle visibilité ils vont donner? Et en fonction de ça, on verra comment s'adapter.
Donc là, c'est le flou total, en fait.
C'est le flou total. On est déjà content d'avoir cette révision au moins le mois. C'est au moins un signe de nos marchés pour se dire, nous, gouvernement, on n'est pas autiste, on entend au moins la problématique.
Eh bien, merci infiniment, Sylvain Lefebvre.
Merci.
Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.